Un accident de la route coûte la vie à une jeune femme à Canala. Le conducteur du second véhicule impliqué a pris la fuite. Un sauvetage au large de l'Ifou hier matin. Un navigateur à la dérive a été secouru après avoir dématé à 50 km des côtes. Près de 4000 visiteurs à la fête de Pointe-Bout. Un pari réussi pour les organisateurs qui ont maintenu ce rendez-vous populaire. Le plein de coups de cœur au salon des collectionneurs. L'événement continue ce dimanche à la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. L'actualité nationale, une manifestation écologiste qui dégénère dans la région de Bordeaux avec des éléments radicaux qui s'en sont pris aux gendarmes. Au Proche-Orient, un nouveau casque bleu blessé dans le sud du Liban alors que les combats font rage entre Israël et le Hezbollah. Et le sport du rugby, Toulouse retrouve Antoine Dupont et l'AS Clermont. Aujourd'hui, pour le compte de la 6e journée du top 14, la star de l'Ovalie française est avec les Toulousains. Bonjour et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité en Calédonie, cet accident de la circulation survenu à Canala hier après-midi. Une personne a perdu la vie alors qu'un homme impliqué dans ce choc entre deux véhicules est activement recherché, Léo Fichou.
Oui, une collision entre deux voitures qui est survenue à la sortie de la tribu de Mia, c'était vers 14h40 hier. Le choc qui s'est produit pour une raison encore indéterminée entre les deux véhicules. Véhicule a coûté la vie à une conductrice âgée d'une vingtaine d'années seulement. Pour le moment, pas plus de précisions sur les circonstances de ce drame, si ce n'est que le conducteur de l'autre véhicule a pris la fuite à pied après les faits. Il est donc activement recherché. Le véhicule dans lequel il se trouvait serait une voiture de société volée hier matin au Mont d'Or. Une enquête a donc été ouverte par les gendarmes pour faire toute la lumière sur la mort de cette jeune femme. Après ce nouveau drame, le bilan de la mortalité routière s'alourdit un peu plus en Calédonie. Nous en sommes à 19 décès suite à des accidents de la circulation depuis le début de l'année.
À Nouméa, un feu de brousse rapidement maîtrisé ce samedi à la mi-journée. Les pompiers ont été prévenus vers 11h45 pour un incendie qui sévissait sur la colline du sémaphore. 11 pompiers, 4 véhicules ont pu rapidement stopper la propagation de l'incendie alors que le vent attisait les flammes en direction de la vallée du Tir. Un sauvetage en mer hier matin au large de l'Ifou. Des moyens importants ont dû être déployés pour venir en aide à un plaisancier. Il était à bord d'un voilier à la dérive après un dématage. Le naufragé a finalement pu être secouru, sain et sauf. Les détails de Martin Blanchard, il est le directeur adjoint du COSNC.
17h30 environ, un navire sous pavillon australien a déclenché sa balise de détresse. Donc il était à 27 nautiques au nord-est de l'Ifou, donc ça fait environ une cinquantaine de kilomètres. On a envisagé très rapidement l'engagement d'un hélicoptère et d'un avion pour prendre contact avec lui. Donc le voilier a confirmé qu'il était en détresse, il n'avait plus de propulsion et il avait perdu un mât également. À 5h du matin, au lever du jour, l'hélicoptère Puma a pu arriver sur zone en étant guidé par le gardien de la marine et donc il a pu hélitreuiller le skipper qui ensuite a été amené directement au Medipôle pour évaluation de son état de santé. Alors très simplement, il aurait pu dériver pendant des jours et des jours. Il tombait à court de vivres, à court d'eau, donc ça aurait été une situation dramatique.
Martin Blanchard, directeur adjoint du COSNC, grâce à l'activation rapide d'une balise de détresse, le navigateur a donc pu être secouru sans problème majeur. Direction la province nord avec le beau succès pour la fête de Pointe-Bout. Le public est venu nombreux sur l'ancien hippodrome de la commune à l'occasion de la 10e édition de ce rendez-vous. Près de 80 stands avaient pris leur quartier sur le site, sans oublier les nombreuses animations et en point d'orgue, le rodéo. Écoutez Yann Peraldi, le maire de Pointe-Bout.
Alors un bilan très positif. Alors une fête qui s'est donc achevée avec l'activité phare de rodéo, qui s'est tout à fait bien déroulé. Pas de gros bobos, alors de petites blessures légères, sachant que c'est un port à risque, bien entendu. On a eu de très bons retours. Là, on a les différents exposants et on a tous des retours positifs.
Une estimation concernant les visiteurs sur le site pour la journée?
Alors, on dira entre 3500 et 4000. Hein. Donc la jauge, comme je l'ai dit, difficile à comptabiliser dans la mesure où ce sont des entrées libres et gratuites. Avec le pic de fréquentation, quoique il nous semblerait que au moment du rodéo, on ait eu moins de monde que l'année dernière, tout au moins au rodéo.
Yann Peraldi, le maire de Pointe-Bout, qui répondait à Kelinda Boicou. La 10e édition de la fête agricole de Pointe-Bout sur l'ancien hippodrome de la commune a refermé ses portes à 19h pour respecter le couvre-feu en vigueur. Les collectionneurs, encore à l'honneur ce dimanche à la mairie de Nouméa. Le salon qui leur est dédié connaît une affluence constante depuis vendredi. De nombreux stands sont à découvrir. Les mobilettes exposées à l'entrée qui font la grande surprise des visiteurs et des nostalgiques du passé. Mais les amateurs apprécient également de découvrir une foule d'autres objets d'antan ou contemporains.
Réveiller mes années 60 qui dorment dans moi. Quand je vois tout ça, le bébé 104, la mobilette rouge, ça me rappelle ma jeunesse, quoi.
C'est ma jeunesse, hein, Motobécane 89. C'est toute ma jeunesse, c'est formidable de voir ça. Il faut être passionné pour restaurer ça, hein. C'est magnifique, j'adore. J'ai une Harley Davidson, alors tout ce qui est vintage, j'aime bien. Félicitations à ceux qui font ça, hein.
Moi, c'est plutôt les objets militaires. Je suis passionné par l'armée. Donc les médailles, les produits militaires comme les balles, les pièces, les insignes.
Je regarde un peu tous les stands pour voir qu'est-ce qu'un peu ce qui m'intéresse, pour voir qu'est-ce que je pourrais acheter, tout ça. Pour l'instant, j'ai claqué sur une BD de Rick et Mortimer.
J'aime bien tout ce qui est ancien, antiquité et tout. Je faisais ça déjà un peu à Métropole. J'ai trouvé un ancien seau à glace, qui est des années 80. Et après, une bouteille d'eau de self aussi, qui est très ancien, qui date des années 30. Donc, voilà. Et là, je vais regarder maintenant les vinyles, parce que je suis un fervent, je suis toujours à l'ancienne. Ma musique chez moi, c'est toujours au vinyle.
Le Salon des collectionneurs en partenariat avec RRB qui continue jusqu'à 18h ce soir. Sur la côte ouest, à Farinos, c'est le marché de Mamie qui animera, comme tous les deuxièmes dimanches du mois, l'esplanade de la mairie de 8h à midi.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Boulou Paris, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
Culture, le 16e festival, la première séance a refermé ses portes hier au Rex de Nouméa. Il s'agissait d'une semaine de projection de films d'animation et de spectacles pour jeunes publics programmés par l'association Jeunes Étoiles. Le bilan avec Hélène Singer, coordinatrice et programmatrice du festival La Première Séance.
On est super satisfait de cette édition, hein, qui n'est certes pas comme les autres. Les habitudes du public ont un petit peu changé, mais la fréquentation reste sensiblement la même. Donc on est vraiment ravis et on voit aussi que le public a répondu présent et qu'ils sont ravis d'être avec nous, partager du cinéma et des spectacles.
Au niveau de la fréquentation, est-ce qu'on a des chiffres ?
On est à peu près à 4750 pour les séances de Nouméa et puis on enchaîne avec les décentralisations la semaine prochaine. Ce sera Dambéa, Mondor, Coné et Pointe-Bout.
Hélène Singer, programmatrice du festival La Première Séance qui répondait à Kélinda Boicou. La 16e édition du festival s'est clôturée à 16h30 au Rex de Nouméa avec la diffusion du film À la poursuite du diamant vert. Un rendez-vous musical à venir avec les choristes du groupe Les Alizés, dirigé par Marie-Hélène Wiplier. Une chorale proposera ce soir un hommage à Gabriel Fauré en l'église du Vœu. Les explications de Anne-Marie Berger, la présidente de la chorale Les Alizés.
Deux concerts qui sont consacrés à Gabriel Fauré, en hommage à ce grand compositeur français qui est décédé en 1924. Donc c'est l'anniversaire des 100 ans de sa mort cette année. Fauré, il a un répertoire très vaste. Il y a du sacré, il y a du profane, il y a des œuvres plus lyriques, on va dire, des mélodies aussi. On a par exemple le Cantique de Jean Racine, qui est extrêmement connu. On a aussi les Djinns. Ça, c'est une œuvre profane qui est tirée d'un poème de Victor Hugo, qui est une œuvre très particulière, un peu sombre, parce que les djinns, c'était des petits êtres maléfiques, en fait, voilà, des esprits. On aura aussi un Ave Verum, un Madrigal, la Pavane.
La chorale Les Alizés vous attendra ce soir à 18h en l'église du Vœu. Il est 7h passé de 9 minutes. On va tourner une page de publicité dans ce journal avant de voir ce qui fait l'actualité nationale et dans le monde. À tout de suite.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion. La suite du journal, Michael Juneski.
L'actualité en métropole, près de 800 militants écologistes étaient rassemblés dans la région de Bordeaux, en Gironde, pour manifester contre un projet de construction d'une ligne de train à grande vitesse. Un rassemblement qui n'était pas autorisé et qui a été marqué par des heurts. Des éléments radicaux se sont mêlés au cortège. Les gendarmes ont été pris pour cible. Un hélicoptère de la gendarmerie a également été visé par des tirs de feu d'artifice. Alexis Bourdon pour Europe 1.
Tout avait bien commencé dans ce village de 490 habitants à plus d'une heure au sud de Bordeaux. L'ambiance était même festive sur le campement. C'est en milieu d'après-midi et après deux heures de marche à travers bois que le ton est monté. Un véhicule de gendarmerie s'est retrouvé embourbé dans un sol sablonneux face aux opposants à la LGV et l'équipage de quatre gendarmes a été pris à partie par des opposants cagoulés. Et le ton est monté d'un cran supplémentaire quand un gendarme a sorti une arme de poing pour tenter d'intimider les manifestants qui encerclaient les forces de l'ordre. Des pierres ont été lancées et des grenades lacrymogènes ont été envoyées en riposte. Le véhicule des forces de l'ordre a été laissé à l'abandon face à la violence des manifestants. Il trône toujours dans le bois, les vitres brisées et totalement pillées par les casseurs. Actuellement, le calme est revenu à l'herbe mussée et il devrait se prolonger au moins jusqu'à demain.
Alexis Bourdon pour Europe 1. En métropole encore, deux ministres qui expriment deux avis différents. Agnès Pannier-Runacher, en charge de la transition écologique, avait annoncé une hausse du prix du gaz par la voie d'un amendement au projet de loi finance. Le ministre du budget, Laurent Saint-Martin, l'a contredit. Lui n'y est pas favorable. Par ailleurs, quatre syndicats de la fonction hospitalière ont déposé un préavis de grève contre le budget que vient de présenter le gouvernement de Michel Barnier. Dans ce contexte, le Rassemblement national annonce, lui, qu'il présentera un contre-budget dès mercredi. L'actualité au Proche-Orient, un nouveau casque bleu blessé dans le sud du Liban, le cinquième en deux jours. Alors que des échanges de tirs se poursuivent entre Israël et le Hezbollah libanais, 280 cibles terroristes ont été visées selon l'armée israélienne. La force des Nations Unies au Liban, de son côté, refuse de quitter la zone frontalière. Écoutez le général Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et expert en relations internationales. Pour lui, ces incidents avec les casques bleus ne sont pas une surprise.
Ça ne me surprend pas du tout. À l'époque où je commandais un bataillon au sud Liban, Israël occupait le sud Liban, justement. Et donc, les forces étaient imbriquées. Il n'y avait pas beaucoup d'Hezbollah à l'époque, c'était d'autres mouvements. Mais il est arrivé, je n'allais pas dire fréquemment, mais il est arrivé couramment qu'il y ait des incidents avec la FINUL. Et moi, j'ai vu même pendant ma période des soldats fidjiens de la FINUL qui avait été tuée par des soldats israéliens. C'est difficile de dire que c'est pas volontaire quand vous connaissez les positions et que vous tirez délibérément sur les positions de la FINUL. Il y avait même eu un incident extraordinaire où un char israélien avait tiré dans la fenêtre du bureau du camp bataillon irlandais. Et lorsque j'avais rencontré les Israéliens, ils m'avaient dit que c'était une erreur. Je leur ai dit que j'étais commandant de char, donc je connaissais, on ne fait pas d'erreur de ce type-là. Un char, ça tire dans une fenêtre d'un mètre sur un mètre, si on le veut bien.
Le général Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Le Hezbollah, de son côté, a annoncé avoir tiré plus de 300 projectiles sur une base militaire de l'État hébreu et des villages israéliens le jour de Yom Kippour, jour le plus sacré du judaïsme. Le président français, Emmanuel Macron, exhorte aujourd'hui le Hezbollah à cesser immédiatement les tirs sur Israël. Les Nations Unies mettent en garde Israël contre le risque d'un conflit régional dont les conséquences seraient catastrophiques. Aux États-Unis, la compagnie Boeing, toujours en pleine turbulence, l'avionneur américain est enlisé depuis septembre dans une grève sans précédent. Boeing fait face à d'importantes difficultés financières. Des mesures fortes ont été annoncées par le PDG de l'entreprise. Des coupes d'environ 10% des effectifs. Geoffrey Branger d'Europe 1.
Environ 17 000 postes vont être supprimés dans les prochains mois. La direction explique que l'entreprise traverse une période difficile et que la relance du groupe passera par une réorganisation structurelle. Concrètement, Boeing a perdu près de 6 milliards d'euros au troisième trimestre en cause des problèmes de livraison ou encore les incidents répétés sur ses appareils depuis le début de l'année, notamment le vol Alaska Airlines en janvier lorsqu'une porte d'évacuation s'était décrochée en plein vol. Par ailleurs, les finances de Boeing sont également plombées par une grève historique. Depuis mi-septembre, dans la région de Seattle, 33 000 ouvriers ne travaillent plus, entraînant l'arrêt des deux principales usines du groupe. Pour l'agence de notation Standard & Poor's, ce conflit social coûte à l'entreprise $1 milliard par mois. Enfin, on peut ajouter les retards sur les appareils dernière génération, 777 prévus initialement en 2020. Les sorties d'usine ont été repoussées à de nombreuses reprises et dans ce contexte très compliqué, la direction annonce un nouveau report. Son dernier né ne devrait pas voir le jour avant 2026. Bref, rien ne va plus pour l'avionneur américain. Les économistes anticipent une baisse importante du cours des actions Boeing d'ici la fin de l'année.
Geoffrey Branger d'Europe 1. Enfin, l'actualité spatiale. Et dans l'hémisphère nord, la comète du siècle Tchouchéchan Atlas, visible aujourd'hui et pour au moins une semaine. Elle est considérée comme un phénomène exceptionnel par les scientifiques de par sa luminosité. Dans l'hémisphère sud, elle pourrait être aperçue pour les plus chanceux dans certaines parties de la Nouvelle-Calédonie si les conditions météorologiques sont propices. Il est 7h passé de 15 minutes. Une dernière page de pub avant de parler d'Antoine Dupont. Le champion olympique de rugby à 7 fait son retour à Toulouse en rugby à 15. À tout de suite.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, c'est du sport, Michael Juneski.
Et à la une du sport sur la scène nationale du rugby avec la sixième journée du top 14 et déjà une surprise en match d'ouverture, Léo Fichou.
Et oui, ouverture cette nuit entre l'Aviron Bayonnais et La Rochelle. L'Aviron Bayonnais qui a humilié le co-leader Rochelais 37-7. Un match qui était délocalisé en Espagne à San Sebastian et qui a donc réussi à Bayonne. L'UBB de son côté n'a laissé aucune chance à l'USAP, victoire 66-12. Les Bordelais qui sont désormais seuls en tête. Montpellier de son côté s'est imposé sur le fil 26-24 face au promu Vannes grâce à une pénalité en toute fin de match de Léo Colli. Et puis la section paloise a dominé 33-26 et ça joue actuellement entre Toulouse et Clermont. Un essai de Peato Maobaka en première mi-temps et là c'est la seconde mi-temps qui vient de reprendre l'entrée en jeu d'Antoine Dupont, le champion olympique cet été de rugby à 7 qui a fait son retour avec Toulouse. Toulouse qui mène 20-0 et c'est la 47e minute.
Allez, du rugby encore, mais au féminin cette fois avec le Women 15.
Les féminines de l'équipe de France avec les sœurs Féléou d'origine wallisienne sont au Canada pour la suite du tournoi international. À 9h45 heure de Nouméa, les Bleus seront opposés à la Nouvelle-Zélande. C'est la troisième et dernière journée de cette compétition qui rassemble, on le rappelle, l'Angleterre, l'Irlande, le Canada, les États-Unis et donc la France et la Nouvelle-Zélande.
Du tennis et les favoris répondent présents au Masters 1000 de Shanghai.
Hier soir, en demi-finale, Yannick Sinner et Novak Djokovic n'ont pas tremblé et se sont qualifiés pour la finale du tournoi en Chine. L'Italien numéro 1 mondial s'est imposé en 2-7, 6-4, 7-5 sur Thomas Marac. Djokovic, lui, a battu l'Américain Taylor Fritz également en 2-7, le score 6-4, 7-6. Yannick Sinner et Novak Djokovic se sont déjà affrontés à 8 reprises, résultat 4 victoires chacun. Début de la finale à 19h30 heure de Nouméa.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Et on parle tennis aussi en Calédonie avec le tournoi Senior Plus du Receiving. Il a démarré vendredi soir, Léo.
Et oui, avec une trentaine de participants qui sont inscrits pour s'affronter sur les cours du Receiving. Les détails d'Éric Jeannot, le juge arbitre du tournoi.
Ça va durer toute la semaine. La seule difficulté qu'on a, c'est que la compétition tennis est en baisse régulière malheureusement et là on n'a qu'une bonne trentaine de participants sur la semaine alors que normalement ce genre de tournoi c'est plutôt 70-80, donc on est en baisse totale, ben, c'est dommage mais on essaie quand même de maintenir ce petit lien social en fait parce que c'est les anciens qui jouent là hein. c'est les joueurs les plus âgés donc c'est assez bon enfant, ce sont des compétiteurs avant tout hein. Donc ils jouent pour la gagne quand même mais ça se finit toujours autour d'un verre et ça se passe très bien quoi. Donc, c'est ça l'essentiel du tennis justement.
C'est donc le tournoi Senior Plus du Receiving. Durant une semaine, les pratiquants âgés de plus de 35 ans s'affrontent sur les cours dans une ambiance conviviale, on l'a entendu. Les finales sont prévues samedi prochain.
Merci beaucoup Léo Fichou. On va s'intéresser maintenant à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Les détails de cette météo, c'est avec vous Nicolas, bonjour.
Bonjour Michael. Alors ce matin, tandis que les nuages tâneront sur la chaîne, l'est et la pointe sud, d'autres circuleront aux loyautés. Sur l'ouest et la pointe nord, le soleil sera bien présent, la lisée d'est-sud-est atteindra 10 à 15 nœuds, localement 15 nœuds sur le sud-ouest en fin de matinée. Cet après-midi, un voile d'altitude s'installera sur le territoire, sur la façade ouest, le soleil restera de mise, sur la pointe sud et aux loyautés, des nuages s'attarderont et ceux qui se développeront sur la chaîne déborderont vers l'est en donnant quelques ondées. La lisée d'est-sud-est atteindra 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur le sud-est et les loyautés. Les températures maximales évolueront peu, entre 27 et 30 degrés, localement 25 à 26 degrés, ce sera sur l'extrême sud.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. C'est avec vous que se referment les pages de ce journal. Il est 7h passé de 20 minutes. Prochain point sur l'actualité avec la rédaction d'RRB à 8h, en vous souhaitant un excellent dimanche, toujours à l'écoute de nos programmes.